Je voudrais qu'on puisse lire ce verset, reprendre ce verset, Jude, verset 11. Je ne dis pas le chapitre parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste avant l'Apocalypse, la lettre de Jude. Et au verset 11, il est dit ceci, c'est un peu le message, Jude est en train d'être confronté à des personnes qui mettent un peu la pagaille dans l'église, ils ont toutes sortes d'habitudes particulières, et il est en train de leur dire là où il faut être. Et pour leur indiquer là où il faut être avec le Seigneur, il leur dit trois exemples de là où il ne faut pas être. Comprenez? Et c'est exactement ce qui est dit au verset 11. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Trois exemples qui sont de l'Ancien Testament et qui nous montrent l'endroit où il ne faut pas être. Et Caïn, c'est sur la voie de Caïn, ça représente tous ceux qui sont là où il n'y a plus la compréhension de la croix, il n'y a plus de l'esprit de sacrifice, de renoncement à soi. Des chrétiens qui ont connu cette expérience, qui ont connu un jour le Seigneur Jésus comme leur sauveur, qui ont cru qu'il était sacrifié pour eux, mais qui ne veulent pas reproduire ça dans leur vie. Et Caïn, si on regarde toutes les étapes par lesquelles il est passé, on se rend compte qu'à chaque fois, il aurait pu, en ayant un esprit de sacrifice, résister à la tentation. Résister à la colère. D'abord, il avait une confiance en lui-même. Il a cru que son sacrifice, je vous rappelle rapidement, je ne vais pas passer l'après-midi dessus, puisqu'on a quand même autre chose à faire, un autre aspect à voir plutôt. Il a d'abord eu confiance en lui-même. C'est tellement confiance que, pour lui, ce qu'il voulait offrir au Seigneur, c'était le fruit de son travail. Pas le sacrifice, le fruit de son travail. Le fruit des arbres, le fruit du jardin, etc., parce qu'il avait sué, il avait creusé, il s'était abîmé les mains, le fruit de son travail, pas un sacrifice. Il a connu plusieurs étapes, il a refusé d'écouter la correction, ses parents ont dû sûrement lui faire la leçon par rapport à ce qu'ils avaient vécu, comment Dieu avait été obligé de tuer un animal pour les revêtir, un sacrifice encore, il a refusé d'écouter la correction. Il a été irrité, consterné face au sacrifice que son frère a fait et qui a été approuvé de Dieu. Il a côtoyé le péché, mais il a laissé prendre la place dans son cœur. Il a cédé à la colère. Il a continué de faire les mauvais choix toute sa vie. Et alors que Dieu lui dit qu'il va être chassé loin de sa face, il se préoccupe de sa propre vie. Au lieu de renoncer à lui-même et de dire « Seigneur, je te demande pardon. Jusqu'à présent, je me suis planté, je me suis manqué. » Il a refusé. Il a dit, Seigneur, protège-moi, protège ma vie, garde-moi. Et ce Caïn nous symbolise toutes ces personnes, ces chrétiens, qui refusent de passer par le renoncement, qui refusent d'être là où Dieu veut. Là où Dieu veut que nous soyons, c'est l'endroit où, jour après jour, étape après étape, pas après pas, nous considérons la croix. Nous considérons qu'il y a besoin de renoncer à nous-mêmes, il y a besoin de mourir à nous-mêmes, il y a besoin de fléchir notre cœur devant le Seigneur et de dire « Oui, Seigneur, je veux t'obéir. Oui, je veux faire ce que tu me demandes. » Deuxième personne, Balaam. Il représente celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Et vous savez qu'au début, quand on lit l'histoire de Balaam, ça se trouve dans Nombre 22. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez lire l'histoire. Verset 6, il est dit « Je sais que celui que tu es béni, est béni, que celui que tu maudis est béni, est maudit. » Balaam, il a une position devant Dieu, comme une communion avec Dieu incroyable. Ce qu'il dit, quand il dit une bénédiction, Dieu approuve cette chose. Quand il maudit, Dieu maudit aussi la personne, parce qu'il a une communion. Quand on regarde l'histoire, on voit que Dieu est en train de lui parler. Alors qu'il reçoit des personnes, Dieu lui parle, il donne des indications. Quand on voit le verset 24, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Est-ce que ce n'est pas des belles choses? Une belle description d'une communion avec Dieu. Oui, mais, cet homme, il passe par le compromis. Dieu lui montre, parce qu'il a une bonne communion, Dieu lui indique ce qu'il faut faire, et il ne le fait pas. Il tolère quelque chose dans son cœur. Il y a un compromis, et parce qu'il y a un compromis, il commence à s'égarer, il commence à se laisser corrompre, et au point qu'il ne comprend pas, il comprend plutôt ce qui l'arrange, au point qu'il ne voit pas un ange, alors que son ânesse, elle arrive à le voir, vous voyez le discernement qu'il avait, au point qu'il parle à son ânesse, et ça ne le dérange même pas. Il n'est même pas étonné. Vous voyez quel discernement il avait, cet homme. Imaginez que si vous avez un animal de compagnie, qu'il se mette à vous parler. Il y a une pub qui fait ça, pour la pub d'une banque, où un chien commence à expliquer à la banque les avantages, etc. Vous l'avez vu cette pub? Je ne fais pas la pub pour la pub, mais je vous explique. Quand un animal commence à nous parler, et quand on n'est pas étonné, c'est la preuve qu'on s'est égaré loin, je pense. Dernière chose qui lui arrive, il combat contre Dieu. Dieu envoie un ange parce qu'il a désobéi. Dieu envoie un ange, il attire la colère de Dieu sur sa vie, et cet ange, il est là pour lui résister. Et verset 32, il est dit quelque chose de très important qui nous explique pourquoi Jude a pu parler de l'égarement de Balaam. Il est dit, je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Un homme qui était chrétien, qui avait une communion avec Dieu, mais parce qu'il n'a pas eu la crainte de Dieu, c'est pareil que Caïn. Caïn, il avait besoin du sacrifice, mais Balaam, il avait besoin de la crainte de Dieu. À chaque étape, il aurait pu s'arrêter et dire, parce que je crains mon Dieu, parce que j'ai la crainte de Dieu devant mes yeux, je vais résister, je vais tenir bon, je vais accepter de marcher dans l'obéissance à mon Seigneur. Et justement, l'endroit où Dieu nous veut, c'est là où on choisit la crainte. On pourrait lire Proverbe, pour finir avec l'histoire de Balaam. Proverbe chapitre 1er, il est dit ceci au verset, on peut lire à partir du verset, alors, au verset 24, Proverbe 1er verset 24, « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. » Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Balaam avait le choix. Mais il n'a pas choisi la crainte de l'Éternel. Et le résultat, c'est qu'on voit dans le livre des Nombres, à la fin du livre des Nombres, il est dit que les nations ont été condamnées par Dieu et Dieu a permis que le peuple d'Israël remporte des victoires. Et à un moment donné, il y a, dans toutes les victoires qui sont données, il est dit qu'ils mirent à mort Balaam, entre autres. Cet homme qui avait une communion avec Dieu, il a connu la mort. Il était sur le chemin de la perdition, mais il ne s'en est pas détourné parce qu'il n'avait pas choisi la crainte. Il ne faut pas être dans cet endroit où on néglige la crainte. Par contre, cet après-midi, c'est ça que je voudrais qu'on étudie ensemble, c'est l'exemple de Corée. Qui a déjà lu l'histoire de Corée? Pas la Corée du Nord ou du Sud, on est d'accord. Corée dans la Bible. Hein. D'ailleurs, il y a trois Corées, je crois. Mais c'est l'histoire de Corée, le cousin de Moïse et d'Aaron, pour être plus précis. Alors, cette histoire se trouve... Dans Nombre, et le chapitre 16, il me semble. Nombre, chapitre 16, quand Jude donne l'exemple de Corée, son but, c'est de montrer que cet endroit où il ne faut pas être, cet autre endroit où il ne faut pas être, là où il n'y a plus la communion fraternelle. Corée, ça symbolise ceux qui se sont perdus loin de la communion fraternelle. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Alors, Nombre, chapitre 16. Corée, fils de Jitsehar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui, qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu, posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi ? dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui ? Moïse envoya Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, « Nous ne menterons pas, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert ?» Parle de l'Égypte, hein, quand même. « Sans que tu continues à dominer sur nous. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité. Et on le comprend. Et il dit à l'Éternel, « N'aie donc point égard à leur offrande. Je ne leur ai même pas pris un âne, je leur ai fait aucun mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez-vous devant l'Éternel, chacun votre brasier. Il y en aura 250, toi et Aaron, vous en prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu, ils posèrent du parfum, se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron, à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché. Tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à l'assemblée et dis « Retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé, pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Amen. Quelque chose de terrible, encore une fois. On disait la semaine dernière que la Bible n'est pas remplie que de belles histoires qui finissent bien. La Bible est aussi, à plusieurs endroits, elle nous donne l'exemple de personnes qui ont vécu des choses terribles, des choses mauvaises, mais parce que c'est le résultat du péché. Et ces choses, comme on l'avait vu, ont été écrites pour notre instruction, pour que nous sachions l'endroit où nous devons poser les pieds. Ça me rappelle quand j'ai été formé à mon travail. Alors au début, on me faisait suivre les conduites d'eau, de forage, jusqu'à la chaudière, vapeur, jusqu'à la turbine, etc. Et après, on me disait toutes les conditions dans lesquelles ça devait marcher. Et pour m'apprendre ça, on m'a dit surtout les limites, les endroits où il faut aller, surtout pas aller, parce qu'il y avait un risque d'explosion, parce qu'il y avait un risque d'incendie, il y avait toutes sortes de risques. Et quand même, vous savez qu'on est motivé pour apprendre ces choses-là, hein. Quand c'est pour éviter un incendie ou une explosion de chaudière, c'est quelque chose qui avait 100 bars. Je ne sais pas si vous imaginez la pression que ça avait. C'est comme si c'était un immeuble qui explosait. Quelque chose d'incroyable. Donc on apprenait tout comme il faut, hein, parce qu'on était motivés. Et la Bible, souvent, nous enseigne les endroits où il ne faut pas aller. Là où il n'y a pas de communion fraternelle. Qu'est-ce qui se passe pour Corée ? Il y a une révolte qui prend place dans son cœur. Il y a une révolte. Vous savez que dans la Bible, Dans le Nouveau Testament en particulier, il y a le mot communion qui est employé 19 fois. Il est employé 9 fois pour parler de la communion avec Dieu. Il est employé 9 fois pour parler de la communion avec les frères et sœurs. Et il est employé une fois pour parler des deux en même temps. Il y a un verset où il y a les deux aspects en même temps, quand on aura l'occasion de le lire tout à l'heure. Et est-ce que ce n'est pas déjà un signe que oui, on doit chérir notre communion avec Dieu, mais on a besoin de cette communion. Et autant besoin de l'une que de l'autre. Ne jamais tomber dans un déséquilibre qui ferait que « Ah, j'aime le Seigneur, mais je n'aime pas les frères et sœurs. » Et comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas tes frères et sœurs? C'est la Bible qui le dit. Et quelqu'un d'autre, « Ah, moi j'aime la communion, mais par contre, je n'ai pas de communion avec Dieu personnel. » L'un ou l'autre, ce n'est pas bon. Corée symbolise cet endroit, ce chrétien qui a persisté, et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce n'est pas arrivé comme ça, d'un coup il s'est réveillé, « Ah, je vais me révolter contre Moïse. » C'est quelque chose qui est venu petit à petit. Et je ne dis pas cet après-midi qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se révolter, mais peut-être quand quelqu'un est en train de prendre le chemin. Il y a certaines pensées qui commencent à s'installer dans son cœur qui font que s'il persiste dans cette pensée-là, il va s'éloigner de la communion. Il va être perdu dans la révolte de Corée, comme c'est dit dans ce verset. Corée, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a perdu sa confiance dans les conducteurs. Et quelle confiance il avait en plus, parce que c'était, comme je le disais tout à l'heure, c'était son cousin quand même. C'était pas n'importe qui, Moïse, c'était son cousin direct, son cousin Germain. Et pourtant, il a perdu cette confiance. Est-ce que Moïse, c'était un homme qui s'accrochait à tout prix à la domination, à l'autorité? Il voulait absolument avoir le pouvoir. Est-ce que, quand vous lisez l'histoire de l'Exode et des Nombres, c'est l'image que vous avez de Moïse? Répondez-moi, s'il vous plaît. Non. Regardez quelques chapitres avant. Nombre 11. Vous allez voir ce que dit Moïse, c'est très révélateur. Et c'est encore une prière sur plusieurs. Nombre chapitre 11, le verset 14. C'est Moïse qui parle. Le peuple, une fois de plus, est rebellé. Ils demandent à manger maintenant. Ils veulent de la viande. Ils en ont marre de la manne. Très, très, très reconnaissants, tellement ils sont dans cette reconnaissance-là qu'ils veulent de la viande à tout prix. Moïse, il est fatigué, il dit ça, « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Et on le comprend. « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. » Vous comprenez la douleur de Moïse? Ça va loin quand même dans ses paroles. Et heureusement, le Seigneur n'a pas pris au mot. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation. » Qu'il s'y présente avec toi, je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. On voit bien dans cette histoire que Moïse, il n'a qu'une envie, c'est d'être déchargé de la conduite de ce peuple. Il n'a qu'une envie, c'est même s'il pourrait un instant... abandonner l'appel du Seigneur, si Dieu lui disait « Maintenant, j'ai choisi quelqu'un d'autre à ta place. » Je crois que Moïse, il serait d'accord. Et je crois, Jérémie va le confirmer avec moi, que si le Seigneur nous demandait la même chose, on le ferait aussi. Parce que c'est une charge d'être sur le devant de la scène. C'est une charge de devoir porter la parole. C'est une charge de devoir être là pour les frères et sœurs. Et merci Seigneur, parce qu'il nous donne la capacité de le faire. Il nous donne la force de le faire. Il nous renouvelle. Mais si on avait à choisir... Moi, je sais que je ne voulais pas être pasteur. Je ne voulais pas. Et puis le Seigneur m'a convaincu. Parce qu'il m'a dit, ce que je te demande de faire, je te donnerai ce qu'il faut pour le faire. Et Moïse, il est dans cet état. Et le Seigneur voit son cœur et le Seigneur lui permet que un peu de son esprit soit répandu sur tous les autres pour qu'il puisse l'aider dans cette charge. Et pourtant... Corée qui est là, il a mal compris tout ce qui s'est passé. Pourtant, on a vu à plusieurs reprises Dieu qui a approuvé son serviteur. Et Corée, il est là et il a cette impression que Moïse, il veut dominer, que Moïse, il veut être au-dessus des autres, alors que c'est totalement le contraire. Et nous pourrions lire dans Éphésiens chapitre 4, ce qui a manqué à Corée, ce qui fait qu'il n'a pas eu confiance dans Moïse, dans ce conducteur que Dieu avait mis au-dessus de lui. C'est ce qui est révélé dans ce verset Éphésiens et le chapitre 4. Un beau chapitre à lire tout en entier, Éphésiens chapitre 4. Je vous laisse sur le cœur, mais on va lire que quelques versets. Il est dit, « Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. » Déjà, humilité ou douceur, c'est pas mal, hein ?« Avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Voilà ce qui a manqué à cet homme. Est-ce que dans son attitude, on voit quelqu'un qui s'efforce de conserver l'unité de la paix ? Est-ce qu'il est quelqu'un qui est en train de déployer son zèle pour surtout qu'il n'y ait pas de division, surtout qu'il n'y ait pas d'obstacle, surtout qu'il n'y ait pas de quelque chose qui vienne se mettre dans le cœur du peuple d'Israël pour que Dieu ne puisse plus approuver ? C'est tout l'inverse qui se passe. Un homme qui est à la base d'une révolte, qui commence à dire des choses, et qui commence même à dire des choses qui ne sont pas vraies. Il commence à dire, Corée, on revient à ce passage, il commence à dire « tous sont saints ». Tous, tout le monde est saint dans l'Assemblée. Tout le monde peut faire ce que vous faites, vous, parce que tout le monde est saint. Et vous savez, ça parle de ces personnes qui souvent disent, on entend de plus en plus des gens qui disent « Ah, il n'y a pas besoin de pasteur, il n'y a pas besoin d'anciens, il n'y a pas besoin de personnes qui sont au-dessus ». Je peux rester à la maison et je peux aller devant mon ordinateur et écouter les messages qui me plaisent. Je peux rester avec des gens que je connais et qui ne vont jamais me dire les choses, qui ne vont jamais me reprocher quoi que ce soit. Ils vont toujours m'encourager, toujours me faire du bien parce qu'ils pensent la même chose que moi. Vous savez qu'on a des personnes comme ça, qui pensent ça. Et c'est vrai que le danger quand on écoute, je ne suis pas contre le fait d'écouter un message sur Internet, je le fais de temps en temps. Mais le danger, c'est d'aller écouter le message qui nous plaît. Ah tiens. Celui-là, il parle de la correction et de bien parler, de ne pas dire des paroles mauvaises. Ah, je ne veux pas écouter ça. Je vais écouter celui qui parle la bénédiction de Dieu. Tiens, ça c'est bien, c'est un bon thème. Vous voyez comment on est ? On peut facilement se faire piéger par nous-mêmes. Mais quand on va à l'église, on est obligé d'écouter ce que le pasteur, comme cet après-midi, vous êtes obligé d'écouter ce que je suis en train de dire. Et mince, oui. Mais vous espérez par la grâce de Dieu, que j'ai passé du temps dans la prière pour que Dieu me communique sa pensée. C'est ça. J'espère. Vous priez pour moi. Vous priez déjà pour M. Go, mais on vous rajoute de prier pour nous en plus. Si vous ne le faisiez pas. Mais combien c'est important. Et nous, nous efforçons, avec Jérémy et M. Go, de chercher la face de Dieu pour vous communiquer une parole, non pas qui nous plaît. Il y a beaucoup de paroles qui seraient intéressantes à voir, beaucoup d'exemples. Pourquoi parler de Caïn ? Pourquoi pas parler d'Abel plutôt ? Mais voilà, c'est aussi des exemples qui sont là pour notre instruction, pour nous avertir combien on a besoin de ces choses-là. Et quand on s'éloigne de la communion fraternelle, on commence à avoir des fausses convictions. Lui, il avait cette conviction, tout le monde est saint. On commence à avoir des idées qui ne sont pas inspirées de Dieu, mais qui sont inspirées par nous-mêmes. Et on commence à être comme ça. Je pensais à cette réalité que quand on est dans la communion fraternelle, eh bien on est confronté aussi certaines fois à nos erreurs, à nos lacunes. Et ça nous permet de nous corriger. Ça nous permet de changer. Parce qu'on va venir à l'église, on va entendre soit une parole, soit peut-être un frère ou une sœur qui va nous donner un conseil, qui va nous dire « Tiens, moi j'ai vécu une situation comme toi, voilà ce que j'ai fait. » Et ça va nous remettre en question. Mais combien c'est bon ça ? Combien c'est quelque chose de qualité ? Combien c'est quelque chose que ça fait partie de la vie éternelle que le Seigneur veut nous donner, cette vie de qualité supérieure ? J'imaginais cet homme qui aime dessiner chez lui. Et c'est sûr, quand il fait un dessin et qu'il compare avec ses enfants, il dit « Ah, mais qu'est-ce que je suis doué !» Et puis, sa femme ne sait pas dessiner du tout. Alors, il compare son dessin avec celui de sa femme. « Ah, mais qu'est-ce que je suis fort !» Et imaginez cet homme qui reste toute sa vie comme ça. Est-ce qu'il va faire de grands progrès, à moins qu'il ait un don vraiment incroyable. Mais sinon, il ne va pas progresser. Si sa femme et ses enfants lui disent « Ah, qu'est-ce que tu es fort, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es magnifique !» Mais imaginez cet homme qui va à l'école des beaux-arts, par exemple, et qui commence à confronter des experts dans le dessin, la peinture, dans tous les arts que vous voulez. Il va vite se rendre compte qu'il n'est pas forcément au niveau qu'il pensait. Et c'est exactement ce qui se passe quand on vient à l'église. Non pas qu'on est expert en quoi que ce soit, mais par la grâce de Dieu et surtout par le Saint-Esprit qui est là, qui parle au travers de chacun d'entre nous, chacune des personnes qui ont été disponibles entre les mains de Dieu pour être utilisées dans son église, eh bien, le Seigneur, il nous parle. Et on se rend compte que, ah ben oui, il y a encore ça qui ne va pas. On se rend compte qu'il y a tel caractère que j'ai, telle réaction que j'ai qui n'est pas bonne. Et par la grâce de Dieu, par la communion fraternelle, je suis amené à être corrigé, à être changé, transformé pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux, la communion fraternelle? Il convoque l'assemblée. Dans Nombre, on voit à nouveau qu'il convoque l'assemblée. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Il convoque l'assemblée contre Moïse et Aaron. Et je réfléchissais. Je me posais cette question. Dans quel but est-ce qu'on se rassemble avec d'autres personnes? Bien sûr, je ne parle pas de cet après-midi. Je parle le reste du temps. Quand on se rassemble avec quelqu'un, quand on se rassemble avec des collègues au travail, dans quel but? Est-ce que c'est pour aider? Est-ce que c'est pour encourager? Est-ce que c'est pour prier, si c'est des frères et sœurs? Est-ce que c'est pour consoler quelqu'un qui est dans l'affliction? Dans quel but je me rassemble avec d'autres personnes? Est-ce que c'est pas plutôt pour critiquer? Est-ce que c'est pas pour me moquer? Est-ce que c'est pas des fois pour prier contre? Comme on l'a déjà entendu que c'est arrivé. Quelqu'un qui prie contre certaines personnes. Dans quel but on se rassemble? Eux, Corée, il avait choisi, lui en tout cas, d'assembler les personnes contre une autre personne, contre deux autres personnes, et en plus c'était les serviteurs de Dieu à l'époque. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un dans l'église convoquait toute l'assemblée contre M. Gou. Imaginez, quelle horreur. Comprenez l'état d'esprit, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Par la grâce de Dieu, nous avons cette capacité de ne pas nous assembler contre, mais toujours nous assembler pour. Et je me souviens de ce responsable de jeunesse qui disait toujours, qui avait toujours des mauvais conseils. J'en parlais hier avec la jeunesse. Un de mes responsables de jeunesse à une époque qui disait que comme quoi il ne fallait pas prier beaucoup. Ça ne servait à rien de trop prier parce qu'au bout d'un moment, on se lassait. Donc tant qu'à faire, il fallait tout de suite pas prier. Vous voyez les bons conseils. Il disait aussi que quand on était jeune, on n'était pas sage, que c'était que les gens qui avaient des cheveux blancs qui étaient sages. C'est bien, ça honore beaucoup de ceux qui ont les cheveux blancs, et je commence à en faire partie, donc je peux le dire. Mais c'est pas vrai. Et je me souviens que souvent quand il prêchait cet homme, on était là avec un autre gars, et on lisait les passages qui disaient tout l'inverse de ce qu'il était en train de nous dire. Et on essayait de rétablir l'évangile véritablement. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a prié pour cet homme. Et on a tellement prié pour lui, tellement prié pour la jeunesse, que le Seigneur a permis qu'il soit mis de côté, qu'il y ait eu quelqu'un d'autre, qu'il soit plus sensé, qu'il soit à sa place. Mais on ne s'est pas rebellé, on ne s'est pas révolté, comprenez? On a usé de la communion fraternelle dans ce bon sens. Si le Seigneur a permis qu'il soit là, c'était pour nous apprendre quelque chose. Est-ce que David n'a pas été à cette école de la soumission face à un mauvais pasteur, face à un mauvais dirigeant? David, c'était son école. Est-ce qu'il a regretté? Toutes les fois où il a pu, il avait l'occasion de mettre fin à cette épreuve, il ne l'a pas fait parce qu'il a dit « Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Je ne toucherai pas. Et moi, je ne veux pas m'assembler contre qui que ce soit, je veux m'assembler pour bénir, pour prier, pour encourager, pour faire du bien, pour toujours dans ce sens positif, parce que, non pas parce que je le mérite, non pas parce que j'ai les capacités, mais parce que le Seigneur remplit mon cœur et que je veux veiller à conserver cette unité, à conserver cette communion. Et toutes les fois où je me rassemble, je veux vraiment que ce soit ce désir-là, de conserver la communion fraternelle. Corée, au verset 9, il est dit que Moïse leur dit « Est-ce trop peu ceci, est-ce trop peu cela ?» Ça veut dire que le discours qu'ils avaient, c'était « C'est trop peu ce qu'on a, c'est trop peu ce qu'on fait. » Vous savez, Corée était donc un cousin de Moïse, il faisait partie de la famille de Lévi, mais ils avaient la charge, en particulier eux, de porter l'arche de l'Alliance sur l'épaule, de porter tout ce qui était dans le lieu saint et dans le lieu très saint même. Et même le rideau qui faisait la séparation, c'est eux qui le portaient. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour le tabernacle, ce qu'ils portaient? Ou est-ce que c'était une mission, la dernière roue de la charrette? C'était quand même le cœur du tabernacle, c'était eux qui en avaient la charge. Après, les sacrificateurs, eux, quand le tabernacle était monté, ils avaient la charge, ils avaient le sacerdoce. Ils devaient faire les sacrifices, etc. Allumer les chandeliers, toutes ces choses qui nous sont relatées dans le Lévitique. Ils avaient cette mission tellement importante. Et pourtant, ils étaient capables de dire, c'est pas assez. C'est pas assez, j'en veux plus. Je veux plus que ce que Dieu m'a confié. Et si vous êtes toujours dans Éphésiens, alors on peut lire le verset 7. Regardez ce qu'il est dit. Ça me fait penser à ces personnes à qui Dieu a multiplié des grâces et des grâces. Et Dieu multiplie ses bienfaits, il renouvelle ses compassions. Et puis ces personnes, elles disent, mais j'en ai pas assez, je veux plus, je veux plus. Et ce matin, on entendait parler du contentement. Ça nous parle de, justement des personnes qui sont à l'inverse de ça, qui ne sont pas dans le contentement, qui sont dans ce désir de toujours vouloir plus. Et Dieu bénit, et ils en veulent toujours plus. Mais eux, ils ne veulent pas s'investir, eux, ils ne veulent pas faire d'efforts, ils veulent que Dieu bénit, et un point, c'est tout. Éphésiens, le chapitre 4, verset 7, il est dit pourtant, « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Et quand on lit la suite, on se rend compte que le don dont il est question, eh bien, on peut le lire au verset... Alors, c'est au verset 11. « Il a donné, donc c'est ça le don, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à quoi ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Voyez avec moi ce dont il est question. À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Mais le Seigneur Jésus, il a fait des dons à l'Église de certaines personnes pour au service de l'Église. Ils sont là pour servir l'Église en vue que tous nous soyons perfectionnés, que nous soyons en rentrant dans notre ministère chacun. Et les dons, c'est nous. C'est Jérémy, c'est moi, c'est Monsieur Gault, c'est... Toutes plein de pasteurs dans ce pays de France qui sont là au service de l'Église. Et je le disais tout à l'heure, qu'ils ne le font pas parce qu'ils le veulent absolument, parce qu'ils veulent être devant, parce que le Seigneur leur demande. Et si vous lisez les versets d'avant, vous voyez qu'il est monté, il a fait des captifs. Les captifs, c'est nous. Et il nous a donné à l'Église. On est captifs, mais on est heureux d'être dans cette captivité-là. Hein. Tu confirmes, Jérémy ? C'est tellement merveilleux quand le Seigneur est là, quand le Seigneur se sert de nous, alors qu'on est tellement faible, on est tellement petit, mais le Seigneur, il parle parce qu'il est puissant, lui, parce que son Saint-Esprit agit, parce qu'il est vivant. Et quand on partage sa parole, le Saint-Esprit parle à chacun de nos cœurs. Quelle grâce incroyable! Mais Corée ne se contentait pas de ce qu'il avait, mais il n'avait pas compris que Dieu avait choisi Moïse et Aaron pour faire ce service-là. Et Corée voulait la fonction qu'ils avaient, mais Corée ne voulait pas la consécration qu'ils avaient. Parce que les Lévites, contrairement aux sacrificateurs, ils n'avaient pas l'onction. Ils n'avaient pas cette mise à part, cette consécration pour faire le sacerdoce. Il y avait toute une procédure. Je vous invite à lire le Lévitique, vous le verrez de façon incroyable. La procédure qu'il fallait pour que quelqu'un qui était fils d'Aaron puisse être sacrificateur. Mais Corée, lui, voulait le service, il voulait la fonction, il ne voulait pas la consécration. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont dans cette fausse doctrine de vouloir absolument prêcher? On en rencontre malheureusement chaque année des gens qui arrivent, et moi je veux prêcher, moi je veux apporter ceci ou cela, et puis on ne sait pas d'où ils sortent, on ne les connaît pas, ils n'ont aucune communion fraternelle avec les uns les autres, et ils disparaissent pendant un temps, ils reviennent pendant un autre temps. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Quand on est donné à l'Église, c'est pour longtemps, c'est pour toute la vie. Mais le Seigneur, il nous permet de conserver la communion. Je voudrais finir. Le résultat d'être là, où il n'y a plus de communion, c'est quoi? C'est la condamnation de Dieu. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? On a lu l'histoire tout entière. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est ouverte et a englouti toutes les personnes qui étaient là, même les familles, les enfants. Et pour les autres qui restaient, qui faisaient brûler des brasiers, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu les a consumés. Est-ce que c'est plaisant, ça? Pourtant, c'est ce qui arrive quand on néglige la communion. Je ne voudrais pas faire un oiseau de mauvais augure, mais je voudrais vous montrer l'importance que la communion fraternelle, elle a aux yeux de Dieu. Autant d'importance que la communion personnelle avec le Seigneur. Si on ne veille pas, si on est perdu, si on commence à avoir des pensées de révolte, si on commence à dire, ah, mais tiens, telle personne qui est au-dessus de moi dans tel service, je ne suis pas d'accord avec lui, j'en ai marre, et on commence à critiquer, on commence à s'assembler avec d'autres personnes contre cette personne, on prend un mauvais chemin. Toutes les voies, la voie de Caïn, c'est une voie glissante qui va vers le bas. La voie de Balaam, c'est pareil. C'est un aveuglement progressif, mais qui lui conduit sur le chemin de la perdition. C'est pareil pour Corée. C'est quelque chose qui va vers la dégringolade, et je crois qu'on ne peut pas aller plus bas que Corée, il est allé. Hein. Quand la terre s'est ouverte, il est descendu directement, ils disent, dans le séjour des morts. C'est cette image qu'il est mort tout de suite. Il n'y a pas eu cette transition. Et moi, ça me fait penser à toutes ces personnes qui restent éloignées de l'Église, qui restent loin, qui ne veulent pas, surtout pas, avoir de contact avec les frères et sœurs, comme on le disait, qui écoutent les prédications, et qui ne se rendent pas compte que petit à petit, le monde est en train de les engloutir. Le monde est en train de prendre la place sur eux. Et puis, ils sont en train de prendre ce chemin qui les conduit dans les flammes éternelles, tout simplement, l'enfer. Parce que si on néglige ces choses, si on néglige cela, on ne peut pas avoir cette certitude qu'on va sur le chemin de la vie, dans le paradis. Mais si on conserve l'unité de la paix, si on conserve la communion, eh bien là, le Seigneur va nous bénir. Prenez avec moi le psaume 133. Vous le connaissez? Regardez ce qu'il est dit. Il est dit l'endroit où il faut que nous soyons. Il ne faut pas être là où il n'y a plus de communion. Par contre, il faut être à un autre endroit. Ben, c'est marqué dans le psaume 133. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité, ou la vie éternelle, on pourrait dire. C'est là. Vous comprenez? Voilà l'endroit où il faut être. Pas là où il n'y a plus de communion fraternelle. Au contraire, là où les frères et les sœurs demeurent ensemble. Là où les frères et les sœurs s'accordent ensemble. Je prends ce verset qu'on connaît bien aussi. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sont assemblés en mon nom, ne sont pas assemblés contre quiconque, sont assemblés dans le nom du Seigneur. Et le but, c'est quoi? C'est que notre communion personnelle avec le Seigneur puisse se développer, mais que nous en fassions bénéficier nos frères et nos sœurs, et que eux nous fassent bénéficier de leur communion. Et vous vous souvenez de l'histoire de la tour de Babel? Je finis avec cette histoire, mais la tour de Babel, c'est des hommes qui se sont unis tous ensemble. Il y avait une fraternité incroyable. Il y avait un désir commun. C'était plusieurs familles différentes, mais ils ont voulu faire un seul peuple. Ils ont voulu faire quelque chose en commun, tous ensemble se rassembler. La seule chose qui n'allait pas dans l'histoire, c'était qu'ils ne voulaient pas de Dieu. Ils voulaient même se révolter contre Dieu, un peu à la manière de Corée. Et ils ont fait cette tour pour qu'elle puisse être vue de loin, pour que, même s'ils n'habitaient pas tout à fait à côté les uns des autres, ils puissent avoir ce point de ralliement. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a dispersé. Et ça me fait penser que le Seigneur, des fois, il nous demande, il veut qu'on soit dans la communion fraternelle, mais il veut qu'on ait chacun cette communion personnelle qui va faire qu'on va avoir chacun une diversité, une complémentarité. Nous sommes tous différents et chacun, nous pouvons apporter quelque chose à notre frère, à notre sœur. Et toutes les fois où nous allons revenir ensemble parce que nous aurons prié, parce que nous aurons cherché la face de Dieu, nous pourrons être en bénédiction à la personne qui est à côté de nous. Est-ce que vous voulez être en bénédiction à la personne qui est à côté de vous en ce moment? S'il y en a une. S'il n'y en a pas, je reprends pour moi. D'accord? Ça ne vous dérange pas? C'est ce qu'on désire. Est-ce qu'on veut être en bénédiction pour nos familles? Moi, je vois cet exemple de Corée, d'Athan et Abiram. Est-ce qu'ils ont été en bénédiction pour leur famille? On voit que leur famille, leurs enfants, même leurs petits-enfants, ils ont subi la condamnation à cause de leur faute à eux. Et c'est ce qui se passe. Peut-être vous dites, ah, mais c'est pas grave, ça concerne que moi, la communion fraternelle. Oui, mais quand vous négligez cette chose, vous en faites pâtir toute votre famille. Vous en faites pâtir peut-être vos amis chrétiens. Vous privez peut-être de bénédiction les personnes avec qui vous pourrez être et que vous pourriez bénir par une parole ou par une prière si vous étiez venu. Alors, que nous puissions non pas être là où il y a loin de la communion fraternelle, mais que nous puissions être justement là où on connaît cette communion fraternelle, où on la conserve, où on fait tous nos efforts, on vient prier les uns pour les autres. Comment je peux arriver à prier pour une mamie que je ne connais pas?
Est-ce que ce n'est pas plus facile de, peut-être de donner un petit coup de fil et de dire « Mais comment vous allez ? Je ne vous connais pas. Il y a une fille, je veux pas, elle n'est pas là, donc je me permets de le dire, mais il y a une jeune fille qui m'a demandé au début de l'année la liste de toutes les personnes qu'on visite et qui habitent dans son secteur. Et elle essaye, quand elle peut, soit de les appeler, soit d'aller les voir, etc. Est-ce que c'est bien ? Pourtant, elle ne les connaissait pas, mais elle a eu ça sur le cœur. Et quand on lui dit maintenant « Priez pour telle sœur », ben, elle est capable de dire « Oui, je vais le faire parce que je la connais ». C'est facile de prier quand on ne connaît pas, mais est-ce qu'on peut y mettre tout notre cœur ? Est-ce qu'on n'a pas besoin justement de conserver cette communion fraternelle ? Alors que nous puissions prier le Seigneur qui nous aide à rester là, là où il y a la bénédiction, là où il y a la vie, là où il y a toute cette grâce qui coule de son ciel, quand des frères et des sœurs demeurent ensemble. Amen. Oui, Éternel, merci. Merci pour ta présence, Seigneur, cet après-midi. Merci pour ta parole qui nous encourage encore à veiller, Seigneur, les uns sur les autres, à nous supporter les uns les autres, à développer cette patience, cet amour, Seigneur, à nous exhorter mutuellement, à nous édifier, Seigneur, à nous encourager, à nous consoler, à pleurer quand il faut pleurer, Seigneur, à nous réjouir quand il faut nous réjouir. Toutes ces choses, nous voulons le faire. Merci de nous aider, Seigneur, à ne pas imiter l'exemple de ces personnes qui ont eu cette mauvaise attitude, qui se sont révoltées, qui ne se sont pas soumis, Seigneur. Aide-nous à plutôt être de ces personnes qui marchent dans l'humilité, dans la crainte de ton nom. Aide-nous à toujours revenir à la croix, Seigneur, à toujours passer par cette vie de sacrifice. Aide-nous, Seigneur, à toujours contempler que l'endroit où tu veux répandre ta bénédiction, c'est quand on demeure les uns avec les autres. Aide-nous aussi à avoir la sagesse pour ne pas seulement dépendre de cet attachement-là, Seigneur, mais aussi avoir notre vie personnelle avec toi, notre communion avec toi. Seigneur, nous voulons être équilibrés, nous voulons être pleins de sagesse, Seigneur. Et tu nous as fait la promesse que ton esprit est un esprit de sagesse, de force et d'amour. Alors, Seigneur, dans ces moments, par ta grâce, répands ton esprit sur tes enfants. Fais couler en nous, Seigneur, ton Saint-Esprit. Et tu vois, tous ceux qui ont soif, tous ceux qui peut-être se rendent compte qu'ils ont négligé cet aspect-là dans leur vie, ceux qui commencent à développer certaines pensées qui ne sont pas bonnes, Seigneur. Tu les aides dans ce moment, comme on l'a entendu, à renoncer à ces choses, à renoncer à ces pensées et à choisir de mettre la crainte de ton nom devant nos yeux, Éternel. Merci parce que tu es là cet après-midi. Merci parce que tu prends soin de nous encore dans ces moments. Merci, Éternel. Amen.